Merci Marion pour cette communication passionnante qui nous dit elle aussi à travers l'exemple du rap que l'intersectionnalité est conçue pour durer. On passe à l'intervention de Kevan Javadzadeh, excuse-moi. Kevan est bientôt docteur en sciences politiques. Il nous abordera un autre cas, le cas des États-Unis, en insistant cette fois davantage sur les différenciations sexuées dans les représentations et les pratiques du rap aux États-Unis.
Merci. Avant de commencer ma communication, je voudrais en profiter pour remercier les organisatrices et les organisateurs de ce colloque, parce que 3 jours, c'est quand même énorme et c'est vraiment une excellente occasion, je trouve, de nous rencontrer, d'échanger, et d'avoir des échanges stimulants. Avant de rentrer dans le vif du sujet aussi, je voudrais rappeler quelque chose qui est assez souvent oublié lorsqu'on parle du rap féminin, parce que je vais parler du rap féminin états-unien, et plus spécifiquement du rap féminin hardcore des années 90 et du début des années 2000. En général, quand on parle du rap féminin états-unien, si on en parle, parce que la plupart du temps, il est absent des livres, des grands ouvrages classiques sur le hip-hop, on oublie de dire que les femmes sont présentes dès les origines, dès le départ. Dans le rap notamment, ça passe par une rappeuse comme Sharok, qui est membre du groupe des Funky Four Plus One, qui est active dès 1976. Le premier enregistrement de rap féminin aussi, c'est Rhyming and Rapping des sœurs Winley en 1979, donc c'est contemporain de Rapper's Delight. On a aussi The Sequence, qui est le premier groupe de rap entièrement féminin aux États-Unis. Et donc, elles sont actives dès le départ, même si elles sont toujours restées minoritaires pour un certain nombre de raisons que je n'ai pas le temps de développer ici. Elles sont restées minoritaires et surtout, on commence à voir une scène rap féminine se développer dans la seconde moitié des années 1980. Ça passe d'abord par une rappeuse qui s'appelle Roxane Shanté, que vous connaissez peut-être pour ses clashs. C'est elle, en gros, la première à avoir clashé un autre groupe de rap. On a aussi, donc, après Roxane Shanté, on a d'autres rappeuses que vous connaissez peut-être davantage, comme Queen Latifah, MC Light, Salt and Peppa et d'autres encore. Souvent, on parle à propos de cette génération de rappeuses d'âge d'or du rap féminin. Je ne vais pas discuter cette appellation. Après tout, pourquoi pas, mais ce qui pose problème, selon moi, quand on parle d'âge d'or du rap féminin, c'est qu'il y a l'idée, souvent sous-jacente, qu'après, par contre, on aurait un déclin, voire carrément la fin du rap féminin. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'ouvrages progressistes sur le rap. Par exemple, dans le livre de Jeff Chang, il nous dit que dans les années 90, en gros, les femmes dans le rap, c'est uniquement des femmes en sous-vêtements. En réalité, c'est faux, il y a même sans doute davantage de rappeuses dans les années 90 que dans les années 80. Donc le gangsta rap va certes participer du déclin d'une génération de rappeuses, celle que j'ai évoquée, la génération des Queen Latifah, des MC Light, etc. Mais il y a une autre génération qui prend le relais, notamment pour répondre aux invectives sexistes d'un groupe comme N.W.A. Cette nouvelle scène qui émerge dans les années 1990 autour de figures comme Lil' Kim pour la plus connue, mais aussi Foxy Brown, Da Brat, etc. Elle va explicitement emprunter au code du gangsta rap, du gangsta rap masculin, donc, et on peut se demander pourquoi des rappeuses font le choix de s'approprier des codes et une esthétique qui, a priori, en tout cas c'est comme ça qu'on se les représente souvent, serait misogyne. Je pense que pour le dire très rapidement, et j'essaierai de montrer pourquoi dans la communication, il y a sans doute deux raisons. Il y a premièrement une raison qui est stratégique, il faut bien s'adapter à un contexte qui est défavorable, donc on est obligé d'une certaine façon de changer le type de féminité qu'on met en avant dans le rap féminin. Mais il y a aussi une raison qui est peut-être cette fois-ci un peu plus positive, c'est que, en fait, les codes du gangsta rap, quand des rappeurs se les approprient, ça leur permet de faire émerger un autre type de discours aussi que ce qu'on a l'habitude d'entendre jusque-là. Ma communication s'articulera en 3 temps. Dans un premier moment, j'essaierai de montrer comment les rappeurs se sont réappropriés l'étiquette infamante de la bitch pour en faire un attribut capacitant. Dans un deuxième temps, on verra que si des rappeuses se sont appropriés les codes du gangsta rap, Elles en ont néanmoins infléchi les politiques sexuelles, notamment, et d'autres politiques, mais en gros, elles ont donné à entendre un discours féminin sur des thématiques qui étaient jusque-là la chasse gardée du gangster rap masculin. Et dans une dernière partie, s'il me reste du temps, je m'intéresserai aux images de la féminité qui sont développées dans ce rap féminin hardcore des années 90. Dans le gangsta rap, à partir des années 90, on a de plus en plus l'assimilation des femmes, et particulièrement des femmes noires, à des bitches et à des hoes, qu'on peut traduire de manière très imparfaite par chienne et pute, mais ce sont des traductions qui sont imparfaites parce qu'il y a une polysémie de ces termes qu'on ne peut pas rendre en français. Donc ce sont bien des termes qui sont infamants, qui sont là aussi pour réduire au silence à la base les femmes. En tout cas, c'est comme ça que c'est mis en scène souvent dans les chansons du gangsta rap. Mais pourtant, c'est bien cette étiquette de la chienne, donc de la bitch et de la hoe. Je fais le choix d'ailleurs dans ma communication de ne pas traduire ces termes-là. Ce sont ces deux étiquettes que deux groupes de rap féminin pionniers vont faire le choix de revendiquer au début des années 90. Donc d'abord avec H.W.A. pour Hoes with Attitude, avec leur album Living in a Hoe House en 1990. Et le deuxième groupe, c'est B.W.P. pour donc Bitches with Problems, avec l'album The Bitches. Aussi peut-être pour en dire juste un mot rapide, vous voyez jusque dans le nom de ces deux groupes que c'est quand même largement influencé par N.W.A. Mais on a sans doute davantage pour H.W.A. aussi l'influence d'un autre groupe qui est Two Live Crew, donc avec quelque chose qui est beaucoup plus sexuel encore. Donc les rappeuses font le choix de s'approprier ces étiquettes infamantes, et on est là clairement dans une stratégie de retournement du stigmate. C'est une stratégie que ne renierait sans doute pas Judd Butler, qui disait que retourner l'énoncé, l'arracher à son origine, est une façon de déplacer le lieu de l'autorité par rapport à l'énonciation. Donc c'est un travail de redéfinition. Enfin, on pourrait se dire que je force un peu le trait, mais véritablement, ces rappeuses explicitent le travail qu'elles font sur le mot bitch en interview ou même dans leurs chansons. On a par exemple Linda du groupe BWP qui nous dit que le mot bitch, dans son esprit, désigne une femme puissante, positive et agressive, qui sait ce qu'elle veut et s'en donne les moyens. On l'utilise dans le présent dans un sens positif. Donc on peut voir aussi des équivalents entre donc, la réappropriation du mot bitch dans le rap féminin avec la réappropriation du mot nigger aussi dans le gangsta rap. Ça fait partie de ce que la sociologue africaine-américaine Patricia L. Collins appelle un de ses retournements spectaculaires à l'œuvre dans la culture hip-hop. Collins d'ailleurs nous donne une anecdote qui est, là encore il me semble, ça rejoint ce qu'on peut observer chez BWP et H.W.A. Elle nous dit que pour ses étudiantes, donc les étudiantes qu'elle avait à l'université de Cincinnati, il y avait une différence fondamentale entre les bitches avec un B minuscule et les bitches avec un B majuscule. Dans leur esprit, les bitches avec un B majuscule, donc ce qu'elle appelait les black bitches, c'était, et là je la cite, des filles vraiment fortes, fières, qu'on pouvait légitimement admirer. Donc il y a aussi ce travail qu'on voit chez BWP, notamment parce que le mot bitch, par exemple, il est... ça apparaît pas forcément, mais voilà, The Bitches, c'est avec un Y. Donc il y a une déformation orthographique, je pense, encore un peu plus pour noter une prise de distance. On a d'autres rappeuses à la suite de ces deux groupes pionniers qui vont faire également le choix de s'approprier l'image de la bitch. On a notamment Boss, Lil' Kim, Foxy Brown, Missy Elliott, Eve ou encore Trina. Donc autant de rappeuses qui, à différents niveaux, vont... que ce soit dans des albums ou de manière plus générale, enfin je veux dire dans des chansons ou de manière plus générale, se revendiquer bitch et demander à être appelé comme ça par exemple. Alors on peut considérer que c'est un choix qui est contraint par l'époque, c'est ce que dit par exemple Tricia Rose, que à l'époque toutes les rappeuses n'avaient pas le choix, elles étaient obligées d'apparaître comme étant hardcore si elles voulaient continuer à exister dans le rap, c'est sans doute vrai, mais il y avait je pense aussi quelque chose d'autre qui se jouait. Encore une fois, je dis ça parce qu'à chaque fois, ce n'est pas simplement reprendre le terme, c'est aussi jouer dessus. Le mot bitch, par exemple, peut à la fois être utilisé pour disqualifier quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, c'est en fait soit une femme, mais aussi un homme. Le mot bitch peut être utilisé pour disqualifier un homme, mais il peut aussi être utilisé dans un sens, cette fois-ci, davantage de fierté pour se désigner soi-même. On a l'exemple de Queen Latifah, par exemple. Queen Latifah qui n'a jamais utilisé le mot bitch, même quand elle clash une autre rappeuse, quand elle clash Roxane Chanté. Elle n'utilise absolument pas le mot bitch, c'est l'une des seules. Et dans le morceau Unity, pareil, elle dit qu'il ne faut jamais employer ce mot, mais à côté de ça, dans un contexte privé, elle dit elle-même qu'en fait, elle n'a pas de souci à l'utiliser avec ses amies filles. Donc, le sens du mot bitch, en fait, dérive toujours de son contexte d'énonciation. Et elle le dit elle-même, elle dit, ça dépend de ce que tu mets derrière, c'est ça qui fait que je vais écouter ou ne pas écouter. Donc, c'est pour ça que les rappeuses peuvent, dans une même chanson, refuser d'être appelée bitch, et elle, par contre, demander à être appelée, comme dans le cas de Lil' Kim, Queen Bitch. Donc, c'est dans le morceau Suck My Dick, par exemple, elle dit, à qui tu parles pour m'appeler bitch? Et un peu plus loin dans le morceau, elle demande à être appelée Queen Bitch. On observe aussi une autre chose, c'est que le mot « bitch » est rarement utilisé tel quel. Souvent, on adjoint un adjectif ou un superlatif. Lil' Kim, donc j'ai dit, c'est la « queen bitch » ou la « supreme bitch » selon les occasions. Foxy Brown, c'est la « motherfucking bitch with an attitude ». Là, on a une référence, encore une fois, à N.W.A. Yves, Dabrat et Trina sont des « gangsta bitches ». Trina, c'est la « baddest bitch ». Mia X, c'est « the better bitch », etc. Donc à chaque fois, on rajoute des choses derrière. On peut se demander aussi pourquoi, outre le fait de s'approprier ce mot bitch qui est à l'origine un mot infamant, on peut se demander pourquoi se réapproprier les codes du gangsta rap et aussi est-ce que ces codes sont nécessairement masculins. Je pose cette question en ayant bien conscience que tels qu'ils sont énoncés à l'origine, les codes du gangsta rap apparaissent quand même assez largement misogynes. Voilà, ça a été traité dans un certain nombre d'articles et je pense que c'est quelque chose sur lequel, Marion l'a bien dit, les médias aiment insister. Il y a une dimension qui est bien entendu misogyne dans le gangsta rap, mais par ailleurs, le gangsta rap masculin ne se limite absolument pas à ça. Surtout, on peut se demander si les codes du gangsta rap sont masculins ou s'ils sont davantage gangsta. C'est ce que fait Jason Hogan dans un article sur ces codes du gangsta rap qui sont réutilisés par des rappeuses. Pour en dire juste un mot, les codes du gangsta rap, ils se rapportent à un imaginaire, à des thèmes, à des représentations d'un mode de vie gangsta, à un langage cru ou explicite, ainsi qu'à la façon de rapper elle-même. Le gangsta rap repose également sur autre chose, il repose sur la capacité à convaincre son auditoire d'une connaissance intime du sujet, donc on doit montrer qu'on sait bien ce dont on parle, c'est la question de l'authenticité qui est revenue assez souvent dans ce colloque. Et donc dans le gangsta rap, ça passe par la figure du bad nigga, telle qu'elle est identifiée par notamment Davarian Baldwin, mais aussi on peut penser à Robin Kelly qui fait un travail assez similaire. Cette figure du bad nigger ou du trickster, etc., c'est une figure qui est éminemment masculine, une figure qui est éminemment masculine et qui personnifie, là je cite Baldwin, elle personnifie la défiance noire à travers un imaginaire extrêmement masculiniste où le nigger est fort lorsqu'il n'est pas un minable, une bitch ou une femmelette. Donc, l'authenticité dans le gangsta rap, ça passe par le fait de performer une sorte d'hypervirilité. Mais on peut aussi, à côté de ça, pour une femme, apparaître comme authentique dans cet espace, à condition, cette fois-ci, d'incarner le pendant féminin du bad nigger, qui est la bad bitch, en fait. Donc, les rappeuses de cette période s'approprient, elles reprennent en tout cas un certain nombre de thèmes chers au gangsta rap. Elle s'approprie son imagerie faite entre autres de stupéfiants donc à la fois le fait d'en consommer mais aussi d'en vendre. Elle parle d'armes à feu, le fait de s'en servir, de commettre des meurtres avec. Elle parle d'argent qui est souvent gagné de manière illicite. Elle parle de relations sexuelles qui sont nombreuses, conflictuelles. Et elle parle aussi de tensions avec les institutions judiciaires et policières. Ce sont des thèmes qui jusqu'alors n'avaient pas été traités dans le rap féminin ou en tout cas très peu. C'est ce que dit Tricia Rose en fait. Ces thèmes-là n'étaient pas abordés, notamment parce que la question de la brutalité policière, par exemple, c'est quelque chose qui concernait davantage les jeunes hommes noirs. C'était eux qui étaient les premiers ciblés par les politiques racistes, anticriminelles. Donc, on pouvait considérer que ça ne faisait pas directement écho au vécu de jeunes femmes noires, même si ça pourrait être discuté en réalité. Mais, en tout cas, ça change dans les années 90 avec des rappeuses comme BWP et surtout Lil' Kim. Je vais donner quelques exemples de chansons. On a le morceau Lil Drama Boy de Lil Kim. Donc dans ce morceau, Lil Kim met en scène son propre procès. Elle est accusée d'avoir tué 6 policiers. Et elle va expliquer aussi, elle va se défendre en affirmant avoir agi en état de légitime défense. Excuse my persona, I may be hardcore, but I'm not Jeffrey Dahmer. Ever since I killed him, I ain't been in trouble since. It wasn't my fault, I acted out of self-defense. Killed my best friend.
Who's him?
I mean them. They was all dressed in blue and they want me dead too. Bah, ça, c'est un morceau typiquement qu'on n'avait pas jusque-là dans le rap féminin. On n'avait quasiment jamais de morceaux qui parlaient de police, ou en tout cas qui parlaient de police dans une perspective assez phénoménologique, au sens où cette personne l'aurait vécu directement. On a aussi Boss, donc pour juste donner quelques éléments de contexte. Boss s'échappe de prison. Donc elle était en prison, elle s'échappe de prison, elle nous raconte son projet d'aller se venger du juge qui l'a fait condamner. Et un peu plus loin dans la chanson, on apprend qu'elle a été condamnée parce qu'elle a tué un homme qui lui avait manqué de respect. Donc on voit que si ces rappeuses reprennent des thèmes hardcore qui peuvent à la limite être la même chose dans le gangsta rap masculin, il y a quand même une perspective genrée qui est différente. Notamment, ça se voit plus chez Boss, avec cette idée qu'en fait, il y a eu un manque de respect. Donc on peut imaginer à tous ces cas de harcèlement, etc. On retrouve ça dans un autre morceau de BWP qui s'appelle Coming Back Strapped. En fait, il y a une interpellation sexiste qui va donner lieu finalement à une vengeance de la part des deux rappeuses. Toujours chez BWP, on a le morceau Wanted, qui s'ouvre sur une référence directe à NWA, donc la chanson Fuck the Police, où elle dit « Je peux être que d'accord avec Eazy-E, etc. Pourquoi la police en a toujours après nous ?» Et donc, on pourrait se dire que c'est une chanson, là encore, qui pourrait très bien avoir été écrite depuis un point de vue masculin. Mais les choses changent dans le deuxième couplet, parce que cette fois-ci, il y a une fouille au corps qui est bien trop minutieuse. Et donc, on voit aussi ce que ça peut être, cette fois-ci, du point de vue féminin. Et donc on voit avec ces morceaux comment dans le rap féminin on discute ensemble à la fois du racisme structurel et du sexisme spécifique qui vise les femmes noires. Ça montre comment les rappeuses hardcore parviennent à la fois à féminiser les codes du gangsta rap en donnant à voir et à entendre l'imbrication des rapports de pouvoir. Elles rejoignent certes les rappeurs dans leur dénonciation de la police, mais elles offrent aussi une perspective différente. Et surtout, ce que je n'ai pas encore montré, elles vont retourner les codes du gangsta rap, notamment ceux de la masculinité, contre les rappeurs eux-mêmes. Elles prennent acte de la misogynie d'un certain nombre de rappeurs et des hommes de manière générale, et elles vont enjoindre leur auditrice à rendre coup pour coup. C'est un thème qu'on retrouve dans beaucoup de morceaux du rap féminin. Voilà, j'ai mis quelques exemples. On a Gangstrology et The Conflict de HWA, Coming Backstrapped et Shit Popper de BWP, My Sister is a Bitch et Coming Quietcha de Boss, Ain't Nothing de Dabrat. Donc autant de chansons dans lesquelles des femmes se vengent d'hommes qui leur ont manqué de respect ou qui ont été violents. On a le morceau là, HWA, où cette fois-ci elles s'en prennent clairement aux membres de NWA. Et notamment dans l'exemple que je mets là, elles s'en prennent à Dr. Dre en disant qu'en fait ça va pas du tout, pourquoi ils s'en prennent à des femmes. Pour la petite histoire d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que elles ont beau avoir, elles ont trashé à peu près tous les membres de NWA dans cet album, mais finalement elles ont été signées sur le label de NWA. Une autre chose, et que j'en ai pas parlé, mais le rap féminin hardcore est aussi parfois un peu plus léger que ce que j'ai pu en montrer. Par exemple, elle se moque assez souvent des rappeurs qui se vantent de leur prouesse sexuelle au lit ou de la taille supposée avantageuse de leur sexe dans des morceaux comme Little Dick de HWA, 2 Minute Brothers de BWP ou We Don't Need It de Lil' Kim. Pour parler... je sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes, ok, je vais essayer d'aller relativement vite. Pour parler de la féminité maintenant dans le rap féminin hardcore, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de voir qu'elles ont permis de faire émerger un nouveau type de figure dans le rap féminin. Les rappeuses de cette décennie, donc des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, rejettent les définitions hégémoniques de la féminité, mais elles n'en restent pas là. Elles opposent un autre type de féminité qu'on peut appeler une féminité gangsta. Et c'est ce que dit, Hogan, que j'ai déjà cité. Dans le gangsta rap féminin, les discours sur l'identité féminine reposent à la fois sur des performances à propos de la féminité et des performances de la féminité. même si les rappeuses ont un discours qui est hardcore, qu'elles se servent d'armes, qu'elles ont, en fait, qu'elles parlent en des termes qui sont traditionnellement associés à la masculinité, elles n'en oublient pas, ou en tout cas, la plupart du temps, elles sont très, très sexy et même ouvertement sexuelles. Et donc, on a un contraste entre une forme d'hyperféminité par le style, par le maquillage, par les vêtements, ou l'absence de vêtements, par les coiffures, et un discours qui, lui, peut être considéré comme étant rhétoriquement masculin. Il y a quelques exceptions. On a Dabra, The Lady of Rage et Boss, où elles font le choix de ne pas être ouvertement sexuelles dans leur performance, mais ce sont plutôt les exceptions. Et à côté de ça, on a Lil Kim, Foxy Brown et Trina, qui sont davantage les rappeuses qu'on a tendance à retenir de cette période, et c'est davantage elles qui vont faire école. L'influence chez Lil Kim et chez Foxy Brown, c'est la bad bitch du film de Blaxploitation des années 60 et 70. Foxy Brown, d'ailleurs, tire son nom directement d'un personnage interprété par Pam Grier. Lil Kim fait référence aussi à cette personne dans un de ses morceaux. Et donc, comme la bad bitch du film de Blaxploitation, la rappeuse hardcore est non seulement sexy, mais c'est aussi une vraie dure prête à tuer s'il le faut, c'est ce que dit Patricia L. Collins. L'image publique qui est renvoyée est celle d'une femme forte, sûre d'elle, qui sait ce qu'elle désire et ce qu'elle doit faire pour l'obtenir. Donc la rappeuse hardcore associe la beauté, la féminité, la sexualité et la violence. Un cocktail qui est assez détonnant. Elles en tirent d'ailleurs une certaine fierté. C'est quelque chose qui revient assez souvent dans les paroles, dans le titre des albums. Lil Kim, par exemple, se vante de ne pas être n'importe quelle femme. Not your average lady. Et de la même façon, Mia X revendique, elle, de ne pas se comporter de manière féminine. Unladylike est le titre de son deuxième album. Alors, pourquoi c'est intéressant d'observer la féminité, les évolutions de la féminité dans le rap féminin hardcore des années 90? Tout simplement parce que jusque-là, la plupart des rappeuses, ou à l'exception sans doute de Salt & Pepa, étaient largement contraintes dans leur performance, et elles devaient à la fois ne pas être trop féminines, si elles étaient trop féminines, en fait, elles étaient disqualifiées dans l'espace du rap, et à l'inverse, si elles étaient trop pas assez féminines, elles apparaissaient comme trop masculines, donc suspectes d'être lesbiennes, c'est une accusation qui revenait souvent, et c'était également disqualifiant, mais pour d'autres raisons. Donc il fallait laisser entrevoir un petit peu de féminité, mais juste un petit peu, pas trop. Les rappeuses hardcore, elles parviennent à dépasser cela, justement en ayant à la fois des paroles qui sont extrêmement dures, qui émulent un certain nombre de thèmes du gangsta rap masculin, mais à côté de ça, ça leur permet de nuancer une féminité qui pourrait paraître superficielle en d'autres, si ce n'était pas avec ce type de paroles. Elles ont d'ailleurs conscience, je pense, de cette tension entre féminité et masculinité dans leur performance. On a Lil Kim, par exemple, qui à la fois s'autoproclame Queen Bitch, une identité de genre qui est féminine, donc, mais avec laquelle elle prend aussitôt ses distances. Elle se plaît, par exemple, à s'imaginer en homme. Il y a un morceau, donc Suck My Dick, dans lequel elle dit « If I was dude, I would tell you all to suck my dick ». Donc, la masculinité apparaît comme un espace de pleine liberté, dont la rappeuse s'empare, non sans ironie, pour contester l'ordre de genre. Elle poursuit dans cette veine dans un autre morceau, dans le morceau Lil Drummer Boy. Elle se définit cette fois-ci non pas comme reine, mais comme roi. Elle dit qu'elle est la première femme roi, et donc une identité de genre qui cette fois-ci est à la fois féminine et masculine, et qui lui permet en fait de dire que c'est la meilleure, indépendamment du genre. Et elle dit d'ailleurs « They're mad 'cause I'm a girl ». En conclusion, ce que j'ai essayé de montrer dans cette communication, c'est que le fait de s'approprier des codes du gangsta rap masculin dans les années 90, ça constitue la modalité dominante pour les rappeuses au cours de cette décennie. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui avec un personnage comme Nicki Minaj. J'ai pas parlé des controverses que ça a suscité, parce que bien entendu, un personnage comme Lil Kim ou comme Foxy Brown, c'est un personnage qui a suscité énormément de controverses au sein de la communauté interprétative du hip-hop et au sein du black feminism notamment. Je pense que selon qu'on souscrive à la thèse d'un langage qui est vulnérable à la réappropriation ou non, on va avoir deux regards totalement différents sur ce type de performance. Il y a d'un côté celles qui vont mettre l'accent sur le fait que en fait, c'est simplement se conformer aux attentes d'hypersexualisation des rappeuses, d'autres qui vont mettre l'accent sur le sentiment de puissance qui est transmis par une rappeuse comme Lil Kim. Indépendamment de ces controverses, et quoi qu'on pense du personnage de Lil Kim, je pense qu'il est aussi intéressant de voir que un personnage comme Lil Kim constitue une référence première pour ce qu'on nomme parfois la scène queer dans le rap, ou ce que le rappeur Leaf appelle le gangsta rap, G-A-Y-N-G-S-T-A rap, et que donc le fait que autant de personnes dans le rap aujourd'hui, que ce soit dans le rap qu'on qualifie parfois d'alternatif comme Leaf ou comme Mickey Blanco, se revendiquent de l'ultime, montre que en réalité, même si le gangsta rap féminin a reproduit en certaines occasions un discours misogyne voire homophobe, il y avait sans doute quelque chose qui troublait l'ordre de genre, ou en tout cas quelque chose qui se passait pour avoir autant influencé des rappeurs et toute la scène ultérieure. Merci.